invitée en studio. On reçoit Stéphanie Harvey, fierté de Beauport et joueuse professionnelle. Salut Stéphanie.
Salut.
On essaie de te recevoir une fois par année pour voir où est-ce que tu en es rendu dans ton cheminement. Je sais qu'il y a eu une période lors de laquelle tu habitais en Californie avec tes coéquipières. Là, ces temps-ci, t'es basée dans quel coin?
Ces temps-ci, ben, j'ai acheté un condo à Québec. Je fais à peu près 50% de mon temps ici, là, dans la ville. J'ai voulu revenir proche de mes parents, proche du Québec, puis faire changer les choses un peu ici aussi. Mais je continue là, mon parcours international en même temps. C'est juste que le downside, je dirais, c'est que j'ai beaucoup d'avions à faire maintenant.
Ouais, c'est ça. L'autre 50% demande quand même du temps. Puis c'est quoi qui t'amène justement à voyager autant que ça? C'est pour rencontrer des fans? C'est pour participer à des tournois? C'est quoi au juste?
Je dirais que chaque week-end, c'est différent. Des fois, c'est pour un tournage. Des fois, c'est pour une compétition. Des fois, c'est pour une conférence. Des fois, c'est pour des événements du genre Comic-Con ou peu importe. L'année dernière, j'ai fait la tournée des Fan Expo au Canada avec mon commanditaire principal Omen. Donc, on est un peu partout là, où le gaming et où les sports m'amènent. Puis, on essaie de faire, une marque, une étape à la fois.
Parce que tu vois, là, je sais pas si tu as remarqué, Julie, elle a dit chaque fin de semaine, c'est différent. Oui, là. Oui. Donc, il y en a un couple sur les 52 où elle est à la maison, mais sinon, elle est sur la trotte pour le travail.
Attends, j'ai juste une question de vocabulaire là, pour que les gens nous suivent. E-sport. C'est quoi?
Donc, c'est Electronic Sports. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer, ça s'appelait pas comme ça. Je pense que c'est une espèce de nom qu'on a dû se donner pour différencier la compétition amicale que tu peux faire dans ton salon, puis des compétitions professionnelles avec des joueurs professionnels qui ont des salaires, qui ont des équipes, des commanditaires, des managers et tout ça. Là.
Donc, peu importe le jeu, ça peut être considéré comme du e-sports, que ce soit un jeu électronique de hockey, NHL par exemple, ou un jeu de tir à la première personne comme Counter-Strike auquel tu excelles.
Mais écoute, même dans notre domaine, il y a des gens qui s'obstinent. Qu'est-ce qu'un e-sport, qu'est-ce qu'elle n'est pas. Moi, je dirais que ça prend des spectateurs, de l'argent, donc un prix, puis des compétiteurs. Donc, s'il n'y a pas un de ces trois-là, peut-être que c'est on peut ne pas considérer ça un e-sport. Fait que si vous faites une gang de Super Mario Kart dans votre salon, là, s'il y a pas de prix en bout, peut-être que c'est pas d'e-sport. Okay. Mais s'il y a un prix, peut-être qu'on pourrait considérer ça une compétition officielle.
Okay, faut que ce soit quand même professionnel, à ton avis, pour qu'on qualifie ça de e-sport. Sinon, c'est du jeu vidéo.
Oui, puis non, comme je dis là. Tu sais, s'il y a un enjeu, s'il y a des spectateurs, puis il y a une espèce de routine par rapport à ça, là, s'il y a de l'argent en compte, je pense que ça peut être un e-sport.
Parce que des tournois de Mario Kart dans le temps des fêtes, là, ça peut être quand même conflictuel.
Ça peut être intense, mais est-ce qu'il y a un prix au bout ou c'est juste l'honneur? C'est juste l'honneur, moi, je pense que c'est pas du
sport. OK, parce que l'honneur en famille, c'est important aussi.
Ouais, c'est quand même.
Je voyais que tu diffusais en direct sur des plateformes comme Twitch. Ça, c'est des gens qui te regardent jouer et tu parles en même temps avec les gens qui peuvent interagir avec toi. Tu streamais même le jour de Noël.
Ben, en fait, c'est une des. Moi, je trouve que la période de Noël, c'est une des périodes les plus faciles pour moi de streamer parce que souvent, je suis pas en voyage. J'ai refait le plein d'énergie, je dirais, une semaine avant Noël. Puis là, comme je me sens bien, j'ai le temps chez nous, j'ai pris le contrôle de mes rendez-vous de toute la ville. Fait que là, je suis comme, j'ai le temps de streamer. Fait que là, je vais streamer tout de suite après l'émission là, avec vous tout à l'heure aussi. Là, j'ai le goût.
Puis là, tu l'annonces sur Twitter, tu dis, OK, je vais être là en ligne dans à peu près 2 heures, vous pouvez venir me voir. Il y a combien de centaines de personnes qui peuvent te suivre en même temps là, dans tes pics?
Écoute, avant, là, j'étais vraiment une des premières. Fait que j'étais vraiment un phénomène. Mais là, j'ai mis ça un peu de côté. Tu sais, avant, je pouvais avoir 50 000 personnes à une soirée.
50 000 personnes qui te regardaient jouer?
Ouais, facile. Là, maintenant, vu que je stream 2 heures ici par là, j'ai peut-être 2 000 à 5 000, dépendamment de la soirée. Okay. Mais avant, là, c'était ça. Je faisais quasiment ça à temps plein, il y a peut-être 4-5 ans. Puis c'est comme ça que je suis tombée en amour avec le streaming. Là. C'était vraiment. Ça marchait très, très bien. Mais après, c'est des choix. Moi, je voulais pas juste faire ça. Je veux continuer à agrandir ma marque. Puis malheureusement, quand tu fais pas juste ça, ben, c'est sûr que t'es pas aussi populaire que les ninjas qui font des millions par mois.
C'est ça, exact. Leur chaîne YouTube et tout.
Exact.
Mais les gens qui te regardent comme ça, ça c'est un aspect que j'ai pas encore compris, OK? J'essaie d'être progressiste puis de comprendre ce qui se passe dans la techno puis les jeunes qui trippent ces jeux vidéo et tout, mais regarder quelqu'un jouer, moi je me dis, je peux m'étirer, prendre ma manette et jouer moi-même. Mm-hmm. Les gens qui te regardent, c'est pour apprendre des trucs, c'est pour interagir avec toi.
Il y a toutes sortes de monde. Il y a du monde qui veulent apprendre le jeu que je joue. Il y a du monde qui veulent juste interagir puis jaser avec moi. Il y a du monde qui veulent vraiment juste avoir ça en background pendant qu'ils jouent eux-mêmes à un autre jeu. C'est comme moi, par exemple, je préfère quand mon chum vient s'asseoir dans le salon puis qu'il joue un jeu dans le salon pendant que je travaille sur mon ordinateur, qu'il s'isole devant l'ordi. C'est un peu ça, mais la version en ligne, la version, je dirais téléroman, là. Tu t'attaches à ces gens-là puis tu vas les voir à chaque jour. Écoute, c'est moi je compare ça à écouter du Virginie des fois là. T'sais, tu t'es habitué à tu t'assois dans ton ordi puis mm-hmm. pendant 2 heures à chaque jour cette personne-là est live pendant que toi tu réponds à tes emails ou tu checkes tes petites okay. affaires puis elle joue en background. Il y en a qui sont vraiment intenses qui participent qui écrivent dans le chat qui sont vraiment des passionnés des fans puis il y en a d'autres que c'est juste ben moi je la mets à côté puis je trouve ça le fun de la regarder okay. de temps en temps.
Ils peuvent voir à qui tu vas donner une volée cette soirée-là. Ouais. Quelle couleur sont tes cheveux maintenant.
Ouais mais tu sais puis des fois ça va pas toujours bien dans mon streaming là. Comme l'autre jour mon chien a vomi durant le durant mon stream en live tu sais puis là moi j'ai la caméra sur le chien pendant qu'il vomit tu sais fait que tu sais c'est sûr que des fois tu vas être là pendant que ça arrive.
C'est comme puis, le prof à la BBC avec son enfant qui marchait
oui,
en arrière là.
C'est ça mais c'est tout le temps des choses comme okay. ça là ça arrive à tous les jours pour tous les streamers où on a des moments un peu je dirais comme cocasse.
OK, t'sais. OK, un peu plus embêtant. Mm-hmm. On en a parlé en introduction Stéphanie, le RSEQ a lancé un ballon la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on lançait ça pour voir la réaction un peu puis ensuite on a regardé ce qui se disait sur les lignes ouvertes mm-hmm. puis dans les articles de journaux etc. Donc le réseau pourrait gérer des compétitions de e-sports via les écoles. Actuellement, c'est les sports, volleyball, badminton, football, etc. Ils gèrent vraiment ça, le RSEQ, pour niveau primaire, secondaire, collégial et même universitaire. Le okay. Rouge et Or, ils sont impliqués là-dedans. Ça pourrait multiplier le nombre de programmes jeux-études ou sport-études en jeux vidéo. T'en penses quoi de cette initiative-là ou de cette idée-là?
Écoute, moi, c'est sûr que je baigne là-dedans depuis au-dessus de 15 ans. Fait que pour moi, c'y était temps. OK, c'est ouais. aussi simple que ça. C'est faut qu'on rentre un système pour supporter les jeunes qui jouent à des jeux vidéo dans les écoles parce qu'il y en a beaucoup que non seulement c'est leur passion, mais si on veut faire face à ce qui va arriver dans plusieurs années où on s'isole de plus en plus sur les médias sociaux, sur l'internet, en ayant des initiatives comme ça, ben ça nous permet de d'être proactif puis de l'affronter de plein front parce que ces organismes-là ou cet organisme-là va créer des soutiens qui vont être autres que juste être bon dans les jeux vidéo, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'entraînement physique, des tendinites, de l'isolement, de même des santé. Pourquoi pas, ce serait une bonne façon de tackle la santé mentale, là, ouais. que ce soit la cyberdépendance, la cyberintimidation qui arrive non seulement dans le jeu vidéo, mais aussi partout pour tous les étudiants à tous les âges. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve que c'est une initiative qui, je l'encourage à 100%, non seulement pour le jeu vidéo en tant que tel, mais pour juste le système scolaire qui a besoin ouais. D'avoir ça dans au Québec, d'après moi.
Est-ce que ça veut dire que le côté positif de ça, c'est de sortir les jeunes des sous-sols?
Ben, je dirais que c'est d'encadrer le tout. Non seulement si tu veux être joueur professionnel, c'est extrêmement difficile présentement de le faire, par exemple, approuvé par tes parents, ta famille, tes amis, ton travail, tes études, de faire la balance entre tout ça. Si tu encadres le jeune qui a du talent, puis tu lui offres des manières de performer dans tous ces aspects de sa vie, comme on fait pour le sport, là. On leur donne un méga coup de main au Québec à nos sportifs. Il ne faut pas oublier que l'avenir est probablement en jeu vidéo et que ça serait incroyable de les encadrer dès leur tout jeune âge pour leur apprendre les bonnes pratiques. Ouais.
Moi, le bout que je comprends pas là-dedans, c'est quand tu dis nutrition, entraînement, puis là, en plus, tu ajoutes peut-être tendinite. Mm-hmm. mettons, la mère en moi va dire, ben là, c'est sûr, t'as une tendinite, tu sais, si t'as toujours ta manette dans les mains.
Oui.
Puis l'entraînement, ça veut dire quoi, nutrition, le lien avec ça? Parce que je l'ai entendu aussi la semaine passée.
Ben, les trois. Déjà, la tendinite, j'ai pris un exemple, mais c'est problème de dos, c'est problème de visuel, c'est problème de tout ça. Ouais. La fatigue mentale. Tout ça, c'est pas vrai qu'en passant 10 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, que tout le monde va se développer en tendinite. Si on a un suivi avec un physio, avec des gens, des professionnels compétents, tu vas prévenir ces blessures-là, non seulement à court terme, mais à long terme. Moi, j'ai plein d'amis qui ont eu des opérations au tunnel carpien, puis ils jouent pas à des jeux vidéo du tout, là. Fait que ça, c'est même pas juste pour les gens qui jouent à des jeux vidéo, là. C'est ceux qui font du bureau, là, pendant 20 ans, hein, à tous les jours, ils peuvent développer ces genres de problèmes-là. Donc, ça, on prend tout de suite des bonnes pratiques pour ces joueurs-là. Que ce soit des étirements entre leurs parties à toutes les 10, 20, 30 minutes de 2, 3 secondes, ça peut faire une énorme différence à long terme. Quand tu joues à des jeux vidéo, moi j'appelle ça de l'endurance statique. Donc c'est pas parce qu'on bouge pas que c'est pas extrêmement exigeant pour le corps. On parle beaucoup d'ergonomie en milieu de travail, mm-hmm. mais en jeu vidéo c'est la même chose. Mm-hmm. Puis en jeu vidéo c'est encore pire parce que c'est ton passe-temps, mais ça peut devenir un gain. Donc, vu que tu joues à ça très, très jeune, à 16 ans, ben à 20 ans, tu vas peut-être attraper des problèmes qui vont être irréparables dans ta vie. Alors que si t'es suivi dès un tout jeune âge, comment te tenir, comment prendre des pauses, quand prendre des pauses, comment optimiser ta santé mentale, là, je dirais, là, ta concentration, tes pics de performance, pour que quand t'es en match, en tournoi, malgré le fait que tu vas jouer 10 heures par jour, ben ta dixième partie de la journée, tu vas être encore en super forme parce que tu as extrêmement bien dormi, tu as bien mangé, tu es en santé physique et psychologique, ce qui fait que lorsque c'est un tournoi là, à 1 million de dollars avec 250 000 spectateurs, tu vas être encore au pic de ta performance après 10 heures sur une scène.
Puis,
vas-y, Julie, vas-y.
Mais est-ce qu'un gamer peut commencer, mettons, moi je pense n'importe quel enfant là, de 10, 12, 13, mm-hmm. 14 ans, là tu dis, tu t'en vas dans une compétition. Est-ce que c'est comme pour un joueur de hockey qui va aller dans la LNH ou dans la Ligue de hockey junior majeur? Est-ce que c'est accessible?
Ce qui est vraiment incroyable avec le jeu vidéo, c'est que c'est accessible à tout le monde, à n'importe quel âge. Non seulement parce que tu peux être doué, puis en 6 mois, tu peux devenir professionnel, si ça donne, mais si jamais t'es plus vieux, puis t'es pas nécessairement doué, si tu travailles très fort pendant 2-3 ans, boum, peut-être que tu vas percer. Okay. En plus de ça, il y a des nouveaux titres et des nouveaux jeux qui sortent à chaque année, qui deviennent des titres incroyables. Cette année, on a eu l'apparition, depuis 2 ans, des Battle Royale. C'est une toute nouvelle catégorie de jeux e-sports.
Fortnite,
ça l'a généré, là, on parle de 100 millions de dollars dans Fortnite en prix pour des tournois cette année ou l'année prochaine. Donc, ça l'a généré un tout nouveau marché. Donc, tous les joueurs qui n'étaient pas professionnels à d'autres jeux, qui voyaient les gens passer, tout à coup, un nouveau jeu est sorti, ils ont sauté là-dessus, sont peut-être devenus professionnels sans aucune expérience, se sont fait engager par des compagnies, parce que là, présentement, toutes les compagnies sportives professionnelles embarquent là-dedans, que ça soit, tu sais, moi, je suis un contrat avec le MSG Group, qui est le même que les New York Rangers, donc j'ai le même contrat qu'un joueur de hockey avec les mêmes restrictions sur mon contrat. Donc, peu importe qui tu es, quel âge tu as, tu peux aspirer à devenir joueur professionnel. Peu importe ta condition physique, malgré le fait que moi, je trouve que c'est très important d'être en forme. Si jamais tu n'es pas un athlète surdoué, là, que tu n'es pas capable de faire de la course, il y a d'autres façons de devenir, je peux dire, en forme sans que ça soit là, de la performance sportive.
Mais Stéphanie, il faut quand même le dire, tu es quand même un infime pourcentage de tous les joueurs qui réussissent à gagner ta vie avec ça. Fait que s'il y a des gens qui voient Stéphanie Harvey jouer puis gagner sa vie comme ça, qui disent à leurs parents « Hey, moi, je peux peut-être devenir la prochaine ou le prochain Stéphanie Harvey », ça peut être quand même préoccupant pour les parents, parce que c'est comme au hockey, quand on voit les jeunes jouer puis oui, à tombe bantam, puis dire « Hey, il va peut-être devenir un grand joueur de la LNH », c'est une infime proportion de tous les joueurs qui réussissent à atteindre ces niveaux d'excellence-là. Faut pas se faire d'idées non plus. Faut avoir de l'ambition, mais il ne faut pas non plus sacrifier ses chemins de carrière habituels en se disant, de toute façon, je vais gagner ma vie avec les jeux vidéo.
Je dirais oui et non. Il faut savoir que c'est sûr que si on met tous nos yeux dans le même panier, à savoir un jeu, puis on lâche tout, puis on ne fait plus rien, écoute, il y a une chance que ça marche, mais il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas non plus.
Ouais.
Ce qui est vraiment incroyable avec les jeux vidéo professionnels, c'est que c'est pas la finalité. Non seulement il y a tous les métiers qu'on peut avoir en sport, que ce soit coach, que ce soit manager, que ce soit journaliste, que ce soit créateur de jeux vidéo.
En
plus, on a tout l'écosystème de création de jeux vidéo, de développeur de jeux vidéo. Puis si on lâche pas les études, là, c'est quand même assez accessible, surtout au Québec. Là, on est le top 5 là, mondial au niveau de la création de jeux vidéo. On a des gros centres à Québec et à Montréal, où il y a des jeux vidéo qui sont faits de au-dessus de 50 millions investissement, ouais, là, pour faire des jeux comme ça. Puis moi, c'est ça qui s'est passé dans ma vie, dans le temps que je pouvais pas devenir joueuse professionnelle, mais je faisais ça on the side, en passe-temps. Ben, j'ai continué mes études en architecture, j'ai fait un DSS en conception de jeux vidéo, j'ai travaillé 7 ans chez Ubisoft. Puis c'est après tout ça que là, j'ai fait, OK, je fais le saut à temps plein parce que je pense que je peux le faire. Mm-hmm. Donc, c'est pas la finalité, puis les parents doivent vraiment pas s'inquiéter. Moi, je trouve que c'est essentiel, là, c'est vraiment d'embarquer avec votre jeune, de triper avec lui, de comprendre ce qu'il fait. Moi, ça a changé vraiment tout que mes parents s'en occupent puis s'intéressent.
Mm-hmm. La semaine dernière, quand on a parlé du RCQ, j'avais mon collègue Dan et mon collègue Eric, les deux fin quarantaine, plus conservateurs sur certains enjeux. Dan et Eric trippent sur le sport tous les deux, OK? Puis eux étaient pas capables de comprendre pourquoi jeux vidéo pouvaient s'accorder avec la discipline d'un sport traditionnel. Penses-tu qu'il y a là-dedans tout l'engouement autour des e-sports, un espèce de choc des générations? toi et moi, on est début trentaine, on peut comprendre où ça mène, alors que nos parents, ou même les plus jeunes, peuvent dire, ben les jeux vidéo, c'est Mario Bros, c'est Duck Hunt, puis je vois pas comment on peut gagner sa vie avec ça. Penses-tu qu'il y a vraiment pas un choc là-dedans?
Moi, je pense que oui. Ça se voit, je pense, quand aussi quand les gens plus âgés essaient de s'impliquer. Là, il y a beaucoup de comment on pourrait dire, fail là, qui s'est passé dans la communauté où l'argent n'a pas été mis à bonne place, où les réseaux de télé ont un peu mal géré ça. Je pense qu'il y a quand même une grosse lacune de compréhension. Puis je pense qu'ils sont contents de ne pas comprendre. Je pense pas qu'ils sont assez ouverts. C'est vraiment, tu sais, c'est un nouveau média. Mm-hmm. C'est pas comme, tu sais, on est déjà habitué du cinéma, des livres, de la télé, de la musique. Les jeux vidéo, là, ça fait même pas 30 ans, là, que ça fait partie du quotidien. Mais faut savoir que maintenant, je connais pas personne qui joue pas un jeu ou qui a jamais essayé un jeu.
Mm-hmm. Sur mon téléphone intelligent, on a des jeux. Julie peut jouer à, je sais pas, moi, Candy Crush, peu importe.
Ouais. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Que ça soit immédiatement par toi ou par un de tes meilleurs amis ou de ton chum ou de ta blonde ou de tes parents ou de tes enfants. Tout le monde joue maintenant.
Mm-hmm. Chaque foyer a à peu près une console de jeu. Là.
Ouais, exact. Fait que c'est plus une question de, c'est plus une question de est-ce que ça a sa place ou pas.
Ouais.
Mais il y a comme un spectre qui entoure ça parce que il y avait eu le film de Alexandre Taillefer, son fils qui s'est suicidé.
Le documentaire Bye.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et qui peut inquiéter les parents. Moi, si ma compréhension est bonne, ce qui moi me rassurerait comme parent, c'est que oui, OK, on va l'encadrer via le réseau des sports des commissions scolaires. Ça irait. Est-ce qu'on va accompagner les jeunes? Est-ce qu'on va les... Tu sais, tantôt, je te disais de les sortir des sous-sols. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gang de gamers qui pourraient se réunir, sont une trentaine à l'école, puis là, il y a un coach qui leur explique comment...
Comme un sport étude.
Qui va détecter s'il y en a qui sont moins bien là-dedans ou des choses comme ça.
Je dirais que ça se fait déjà. Ça se fait déjà dans plusieurs écoles au Québec. C'est encore anecdotique, là. C'est vraiment des initiatives
de chaque...
Le
cégep de Matane, exact. Par exemple.
Tu sais, ce que tu es en train de décrire, c'est quelque chose qui existe déjà dans le milieu du jeu professionnel. Comme moi, j'ai habité dans une gaming house pendant 2 ans, donc on faisait ça tous les jours. On se regroupait avec mon équipe, mon coach, on parlait de nos stratégies en vrai, là. Tu sais, c'était du réaliste, puis ça se fait comme ça partout dans le monde. Donc, je dirais que c'est exactement ça, le but. Le but, c'est de comprendre ce que les gens font derrière leur ordinateur, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit toute autre chose. S'intéresser à ce que nos enfants font, fait qu'ils s'isolent moins. L'ouverture d'esprit puis la compréhension de ce qu'ils font aussi fait qu'ils vont vouloir en parler. Tu sais, si on dit... Moi, je vais donner le meilleur exemple de la planète. C'est si tu dis à ton kid, arrête de jouer à tes jeux vidéo, viens manger. Mm-hmm. Mais si tu dis à la place, parce que tu sais que une de ces parties dure 15 minutes, tu dis, hey, pars ta dernière partie dans 15 minutes puis viens manger après, tu nous parleras de comment ça a été.
Mm-hmm.
Okay. Imagine l'attitude de cet enfant-là qui reçoit les deux messages. Les deux messages, c'est le même. On veut manger ensemble. On veut manger ensemble, puis on veut que tu lâches tes jeux vidéo. Mais si tu y dis d'une façon, OK, je passe la dernière partie, il dit à ses chums, hey les gars, oh, je pars ma dernière partie, après ça, je vais manger, puis je reviendrai dans une heure. Là, il descend en bas, hey man, j'ai gagné ma partie, puis là, on parle de ça ensemble. Mm-hmm. Si ce jeune-là est en train de jouer au hockey ou au soccer, qu'est-ce que tu penses que les parents feraient? Ils iraient voir ses parties. Ils s'intéresseraient sur ses coéquipiers.
Ouais.
C'est la même chose dans le jeu vidéo. Il faut s'ouvrir à ce que nos enfants font parce qu'ils ont des amis, ils ont des relations par rapport au jeu vidéo. Ils vivent une expérience qui les fait vibrer puis probablement passionner. Fait que si vous leur dites « ne fais pas ça », ce qui va se faire, c'est que ce jeune-là va se renfermer. Ouais. Il va jouer à des jeux vidéo quand il va pouvoir, il va se cacher pour jouer. Il va trouver toutes les manières pour jouer puis il va pas vouloir vous en parler parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir vous en parler, vous allez réagir de « moi, les jeux vidéo, là, je comprends pas ça
mm-hmm. ».
Puis c'est exactement ce qu'il fait que ça renferme les gens. Puis ça, c'est le jeu vidéo, là, mais c'est pour ça, pour tout. Moi, je prends l'exemple des jeux vidéo parce que ça a été ma vie. Puis mes parents ont changé ma vie en s'en intéressant. Mais si ça avait été, peu importe, le skateboard ou peu importe. Mais là, on accepte toutes les autres. Là, c'est mm-hmm. rendu le méchant, c'est rendu le jeu.
Mm-hmm.
Fait que je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir puis regarder la chose d'une autre façon.
Bon, ben moi, je prendrais ta réponse. Je l'isolerais puis on pourrait la représenter plus tard parce que je trouve que tu l'expliques très bien.
Oh, oui.
C'est un très beau message que tu envoies mm-hmm. aux familles. Ouais.
En terminant, je veux que tu me parles un peu de RDS, jeu vidéo, qui a été lancé au début du mois de décembre. Mm-hmm. Tu vas être impliqué avec eux au courant de 2019. Il y a deux projets auxquels tu es associé. Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, ça faisait plusieurs années que je faisais des vlogs sur RDS, mais tu sais, il y a eu beaucoup de moments où les gens comprenaient pas là, pourquoi qu'on parlait de jeux vidéo sur un site de sport. Bon. Avec lui, RDS, ils ont lancé l'initiative du site de jeux vidéo, puis c'est un super beau site où on va parler autant de nouvelles de gaming et d'e-sports. Puis moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire sur le site? Puis là, moi, j'ai dit, hey, moi, il y a deux projets qui me tiendraient vraiment à cœur. J'aimerais ça faire deux web-séries. La première sur ma vie de pro, ça serait rencontrer les professionnels au Québec et les élever à un autre niveau. Parce qu'il n'y a pas juste moi qui est professionnel au Québec. Ça donne que moi, je parle partout, puis je suis très impliquée, là, que ce soit au niveau des médias, mais aussi au niveau de faire changer les choses. Mais on est pas mal. On est, je te dirais, là, 25 à 50 pros au Québec dans toutes sortes de jeux. Pourtant, là, je suis sûre que vous n'êtes pas capable d'en nommer un deuxième.
Non, je connais toi.
C'est ça. Fait que moi, je vais partir une web-série où je vais m'asseoir avec chacun de ces pros-là, puis on va parler de comment ils ont vécu ça, que ce soit avec leur famille, leur progrès, puis ils sont rendus où, puis c'est quoi leur but. Puis on va faire ça avec la plupart des pros que je connais. Puis le deuxième projet, ce serait de parler justement de sujets comme on vient de parler, en débat avec quatre autres personnes qui s'assoiraient avec moi.
Je vais t'envoyer Éric Duhaime, si tu veux. Ça va lui faire plaisir.
C'est quelqu'un qui sera plus un détracteur. Quelqu'un qui serait plus quelqu'un qui travaille dans le développement de jeux vidéo, un journaliste, puis mettons un joueur professionnel, puis on va parler des débats comme est-ce que le jeu vidéo, c'est un sport?
OK. Ah, mais regarde, je vais suivre ça avec attention. Merci d'être une ambassadrice pour le mouvement, puis de nous démarginaliser un peu, nous les gamers. T'as tellement des réponses. Tes réponses sont à côté avec ton expérience. Fait que dans ce temps-là, ça vaut de l'or.
Ouais, c'est toujours longtemps qu'on en parle de ça.
Jeff, j'espère qu'on pourra arriver un jour à aujourd'hui, en 2018, 2019, 2020, et qu'on ait les e-sports aux Jeux olympiques.
Je sais que
ça se discute en ce moment, le CEO, il y a plusieurs personnes qui en parlent, mais je pense qu'un jour, on est peut-être rendu là. Le lancer du poids puis le lancer du javelot, c'est peut-être rendu dépassé un petit peu. Donc, on pourrait arriver peut-être au goût du jour, je vais le dire
ainsi. En fait, ça se vendrait peut-être bien. C'est peut-être par l'argent, finalement, qu'ils vont l'avoir, cette discipline-là.
Moi, j'ai regardé à TSN des compétitions au Air Canada Center à Toronto avec 18 000 personnes qui regardent quelqu'un jouer. Puis, tu vois qu'il y a de l'ambiance, tu vois que les gens ont compris c'était quoi le e-sports, puis qu'ils le prennent comme un sport traditionnel, je pense que les Jeux olympiques pourraient se réveiller, s'ouvrir les yeux peut-être sur le phénomène.
Si vous avez un doute, là, je pense qu'on remplit à peu près un amphithéâtre à chaque fin de semaine, puis parfois plusieurs amphithéâtres en même temps partout dans le monde de compétition. C'est très populaire.
Merci d'être passé en studio, Stéphanie.
Merci de m'avoir invité.
Stéphanie Harvey, notre joueuse professionnelle et fierté de Beauport.
Le retour d'Éric Duhaime.
On revient après ces quelques messages.
FM 93, ça me parle. Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
Au FM